Bonjour. Donc effectivement, je m'appelle David Rossé, je suis le pasteur de cette communauté. J'ai la joie d'être le pasteur de cette communauté. Et puis, ce matin, vous l'avez vu peut-être dans le courrier que vous avez reçu par email, on va faire un thème, puis traiter un thème qui sent bon, les vacances, puisqu'on va parler du repos. Mais peut-être que même on va aller un tout petit peu plus loin que les vacances. Parce qu'effectivement, c'est le temps des vacances. Là, je vous en donne un petit écho de mes précédentes. Je ne vous dis pas où c'est parce que j'aimerais bien garder ce lieu secret seulement pour ma famille et moi. Je vous dis juste que c'est dans le sud de la Sardaigne, comme ça, il y en a quelques-unes des plages qui sont magnifiques. Et puis pour nous, ben, effectivement, on se projette dans ce temps de repos, dans ce temps de vacances, qui est un temps différent, qui est un temps aussi, d'après moi, propice un peu à vivre des choses autres que ce qu'on a l'habitude de vivre tout le reste de l'année. On change de rythme, on change peut-être de personne avec qui on est, on change d'environnement, il y a beaucoup de choses qui sont reconfigurées. Et puis, ma prière, c'est que pendant ce temps de vacances, on puisse aussi peut-être reconfigurer notre manière d'être avec Dieu, notre manière d'être avec le Christ, et c'est ce qu'on va vivre ce matin. Alors, se retirer puis du temps de repos, les chrétiens, je vous rassure tout de suite, on n'est pas du tout les seuls à y aspirer. Je ne sais pas si vous connaissez cette application que vous pouvez télécharger sur vos iPhones et autres Samsung et Huawei. Ça vous dit quelque chose? Alors, c'est l'application qui a été le plus téléchargée dans le monde en 2017. C'est la numéro 1. Alors moi, ça m'a un peu intrigué parce que c'était simplement Calme, le titre. Et puis, du coup, je l'ai téléchargé pour voir ce que c'était. Et c'est assez intéressant parce que c'est une application où simplement, il y a une espèce de petite musique avec des chants d'oiseaux et puis un doux son du rivage qui vient jusqu'à vos oreilles. Et puis une voix off qui vous dit, prenez du temps, entrez dans le calme. Puis il y a toujours la petite vague qui vient le long du rivage. Rentrer dans le calme, on entend de temps en temps une mouette ou bien je ne sais pas quoi, qui est là, qui vole, on l'imagine. Puis je me suis dit qu'il allait y avoir quelque chose d'autre, quoi. Eh bien non. Ça continue comme ça, alors au bout de deux minutes, j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Puis j'ai passé à autre chose. Mais juste pour vous dire l'importance que nous avons besoin dans notre société, l'importance que ça a de prendre ces temps de retrait, ces temps de calme, et puis qui sont très largement partagés au cœur de notre société. Et j'ai trouvé ça très interpellant que ce soit l'application la plus téléchargée ou le coup de cœur 2017, que visiblement, Nyon n'a pas encore été très très atteint par ce coup de cœur, s'il n'y a personne qui la connaît, à part le pasteur, c'est bien. Forme et santé. Il faut qu'un être âgé de plus de 4 ans, vous l'avez vu, vous pouvez la regarder. Peut-être que vous allez trouver des autres choses que moi, je n'ai pas découvertes par manque de patience. Les chrétiens aussi sont intéressés par ce thème du repos, des vacances, de se ressourcer. Ça ici, c'est une capture d'écran du Top Chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que c'est un des sites les plus visités par les chrétiens. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le thème du repos, il y a seulement 1478 articles disponibles. Alors, ça signifie ce que ça signifie. Je pense que si j'ai appris la sanctification, il y en aurait peut-être eu 3. Non, j'en sais rien. Je n'ai pas regardé, c'est complètement gratuit. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont donnés et consacrés à ce thème du repos. Donc, visiblement, une fois de plus, on se rend compte que les chrétiens, on est bien en phase avec notre société. Simplement, peut-être que nous avons besoin de quelque chose de différent. Et c'est ce que nous invite, d'après moi, le texte de l'Évangile, à faire nôtre et à considérer. Et je vous invite à soit écouter, soit suivre avec moi dans la parole, dans l'Évangile de Marc au chapitre 1. Et nous allons méditer ensemble ce matin les versets 29 à 39. Marc 1, 29 à 39. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Jésus donc s'approcha, il la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Peut-être le mariage le plus rentable, le miracle le plus rentable de Jésus. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Le lendemain matin, au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le chercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent « Mais tous te cherchent !» Il leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons. Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. Il y a un contraste assez saisissant entre une activité intense, quasi frénétique. Toute la ville vient à ses portes, tous les malades viennent vers lui, tout le monde se presse autour de Jésus. Et ce besoin impérieux, j'ai envie de dire, ce besoin fondamental, essentiel pour Jésus, de prendre le temps de se retirer. Même lui, le Fils de Dieu, dans sa toute-puissance, il a eu besoin de prendre des temps autres, des temps où il se retire de l'activité incessante. Repos et activité, c'est un couple qu'on ne peut pas dissocier. Ils sont là, ils font partie de notre vie. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Ce n'est pas pour dire que vous devez seulement prendre du repos puis cesser toute activité. Ce n'est pas à dire que c'est seulement dans l'activité qu'on se réalise. Ils sont les deux là. À nous de leur donner une part qui convient. Dans ces épisodes de la vie de Jésus, c'est assez important de remarquer que les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui lui arrive. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus a besoin de se retirer et pourquoi il arrête de fait ses activités pour se retirer. C'est assez intéressant ça. Ils n'arrivent pas à comprendre puisque la première chose qu'ils font, c'est de courir après lui et essayer de le retrouver au plus vite possible pour qu'il puisse continuer son activité. Et Jésus leur dit, calmos, calmos, gardez ces temps-là. C'est ces temps-là qui me permettent d'aller et de proclamer le message. Alors se retirer, c'est une décision que Jésus a prise et c'est aussi une décision que nous sommes invités à prendre. Se retirer, ça ne se fait pas en claquant des doigts ou naturellement dans nos vies. On doit, et puis là, je vais peut-être vous décevoir, on doit décider de le faire. Ça ne va pas venir tout seul. On doit prendre la décision, à un moment donné, de se dire, dans ma vie de foi, pour être en action et être un disciple du Christ, j'ai besoin, moi, David, de décider de prendre un temps à part pour me mettre en relation avec Jésus. J'ai besoin de décider de me retirer de ce que je fais. Alors, pendant les vacances, ce qui est assez pratique, c'est que de toute manière, on se retire déjà d'une certaine façon. C'est peut-être pour cela que c'est plus propice de prendre ces temps-là avec Dieu. Mais même pendant les vacances, on devra prendre cette décision de se dire, là, j'arrête mon train-train quotidien, même en vacances, et je me retire ailleurs en Dieu. Parce que se retirer, on va le voir, ça peut être pour toutes sortes de bonnes raisons. Ça peut être pour prendre un temps pour soi. Alors là, c'est une excellente question, parce que alors, même en tant que pasteur, je l'entends assez souvent. « Ah, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de prendre du temps pour me ressourcer. J'ai besoin de prendre du temps pour me faire du bien. » On a besoin de prendre un temps pour soi. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de notre société. Je dirais que ça, on est dans les top 3 aussi. Là. Besoin de prendre du temps pour soi. Pour se calmer peut-être, parce qu'on a une vie tellement trépidante qu'on a besoin de se calmer. Je vous laisse continuer la liste de toutes les bonnes raisons qu'on pourrait prendre pour se retirer. Ce sont toutes des choses essentielles, en tout cas des bonnes choses, mais non essentielles, je dirais, pour le disciple de Christ que nous sommes. Les disciples de Christ que nous sommes ne peuvent pas simplement se contenter de prendre du temps pour eux-mêmes, de prendre du temps où on se ressource pour soi-même. Il y a quelque chose d'autre. Et puis j'étais à la poste cette semaine, et puis quand on est à la poste, on doit attendre. Alors, quand on attend, on a le temps de regarder un peu, ils sont très malades, tous les articles qui sont en vente pour le temps d'attente, et il s'avère qu'il y a même des livres qui sont assez intéressants. Et puis c'est là qu'on voit que le besoin de se retirer, le besoin de prendre du temps à soi, c'est un immense trend dans notre société. Là, vous avez le premier, « J'écoute ce que mon cœur veut vraiment ». Dépolluer son intérieur au naturel, je lâche prise, je rééquilibre mon alimentation. Tous des éléments finalement pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi et qui nous encouragent à aller dans cette direction. Alors, je ne vais pas faire le moraliste, mais c'est vrai que ce matin on est à l'église, puis vous avez choisi la bonne part. Donc, si vous voulez avoir toutes ces choses-là, je vous conseille d'aller à la poste. Ce n'est pas moi qui vais réussir à faire le spécialiste de développement personnel. Moi, je nous invite à ouvrir notre cœur à Christ, à ouvrir notre cœur à Jésus. Donc on est toujours dans cette tension entre ce que la société nous propose, puis des fois on le christianise un tout petit peu en disant « mais là, moi je prends du temps pour moi, mais des fois je prie aussi, hein, c'est pas mal ». On fait du donnant-donnant, on deal un petit peu avec ces différentes choses. Je prends du temps pour moi en rééquilibrant mon alimentation, mais c'est aussi pour le Seigneur. On arrive à faire ce genre de choses. Je crois que l'Évangile nous invite à être un poil plus radical que ça et nous offrir véritablement à la présence de Dieu. Et c'est ce que nous dit Jésus à travers cet exemple. Se retirer, finalement, si on ne fait que ça, on n'a encore rien fait en regard du disciple de Christ. Se retirer, oui, c'est peut-être la première étape, mais c'est se retirer dans un but bien précis. Jésus se retire pour deux choses, et on va s'attarder sur cette première chose ce matin. Se retirer pour prier. Il donne une intention claire à son retrait du monde, c'est pour être en communion avec son Père. Point. Il n'en dit pas plus. Il ne dit pas « je me retire pour me ressourcer ». Il ne dit pas « je me retire pour me faire du bien ». Il ne dit pas « je me retire pour me calmer ». Non, il se retire pour prier. Et ensuite, cette prière va nourrir son action. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on l'a déjà souvent fait ces dimanches-là. Mais cette prière, c'est vraiment cette prière qui lui permet, au plus profond de lui, de proclamer le message. Puis on a eu un petit débat avec Laurent Bachmann en préparant ce culte, parce que je lui dis qu'on va essayer de prendre un temps un peu de recul, de repos ce matin. Et puis j'ai dit qu'on prenait exemple sur Jésus qui avait une activité frénétique, où il guérissait beaucoup de personnes, il faisait beaucoup de bien autour de lui. Puis il m'a dit, mais David, il n'était pas frénétique, Jésus. Puis on a eu un petit débat au téléphone parce qu'il me dit, c'est impossible que Jésus ait eu une activité frénétique parce que toujours, il était conscient de ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vous notez la petite subtilité qui m'a introduite. Alors, j'ai gardé cette interpellation. Or, moi, je continue de penser que c'était une activité quasi frénétique, non. Mais qu'il était... Mais qu'il était effectivement nourri par cette présence intérieure qui lui permettait d'être en action. Ce n'est pas le rythme d'action qui va déterminer si l'on est dans une activité frénétique ou pas, c'est notre état intérieur, à savoir s'il est nourri suffisamment ou pas, qui va déterminer si on se fait happer par l'activité ou si l'on reste maître de l'activité. Je ne sais pas si vous saisissez, c'est assez subtil hein, la différence. Mais cette prière intérieure, ces temps de retrait, ces temps de ressourcement, nous permettent d'affronter l'activité que Dieu prévoit pour nous. Pour Jésus, c'est vrai qu'elle était assez intense. Un texte de la Bible qui nous dit qu'il n'avait nul endroit où poser sa tête. Donc, c'est dire qu'il avait une activité très intense. Pourtant, il arrivait à garder ces temps de retrait, de repos, d'équilibre intérieur pour vivre cette activité qui, nous, pourrait nous paraître frénétique. Souvent, on pense que c'est une question de rythme d'activité, le problème. Je pense que l'Évangile nous encourage à considérer la problématique différemment, de se dire que c'est plus notre prière intérieure, notre état d'esprit d'intérieur, qui va déterminer comment nous serons dans notre action. Et je crois que c'est ça que veut nous dire l'Évangile et l'exemple du Christ. Quel est mon équilibre intérieur en relation avec Dieu? Comment est-ce que je nourris mon intérieur par la prière. Alors se retirer, je vais aborder une phase maintenant très très concrète, très pratique, pour essayer de nous aider à nous donner peut-être quelques trucs, quelques petites astuces avant notre mise en temps de vacances, pour se dire comment est-ce qu'on peut se ménager ces temps de qualité avec Dieu. Je crois qu'on est tous convaincus de la nécessité de le faire. On est des fois un peu plus handicapés sur les moyens concrets de le faire, sur le temps concret, sur cette décision toute concrète, pratique à prendre. Je crois que le fait d'avoir un lieu désert et calme, ça peut être pas mal. C'est une nécessité. En tout cas pour Jésus, lui, il n'a pas trouvé le moyen de le faire là où il était. Il a dû se retirer peut-être 200 ou 300 mètres, mais pas beaucoup plus, pour être à lui dans un temps, dans un endroit au calme. Je ne sais pas si, on est toujours dans le temps des vacances, on reprend une autre image des vacances, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les cités touristiques, généralement il y a une grande rue où il y a beaucoup de monde, puis on se marche dessus, vous faites quatre pas de côté, vous allez sur deux rues parallèles, il n'y a plus personne. Ben, je pense que se mettre dans un lieu désert, ça pourrait ressembler à ne pas aller dans la rue touristique, mais simplement de se déplacer consciemment, de quelques pas de côté, et de prendre ce temps de calme. Ça va vous suffire. Il ne suffit pas, il n'a pas besoin de monter sur la montagne qui est en face et puis de faire 4 heures de marche pour trouver le lieu désert. Il suffit des fois de faire un simple pas de côté. Alors, surtout quand on a des enfants, là j'ai pensé à moi, j'ai pensé à une autre idée très concrète pour les différents membres du couple, qu'on pourrait offrir à l'autre des temps de méditation. Par exemple, en prenant les enfants, par exemple en préparant le repas, puis on lui dit, ben voilà, là, cette heure qui vient, je m'occupe de tout, puis toi, je t'offre ce temps à part avec Dieu. Moi, je me mets au niveau pratique et je t'offre ce temps à part. Une idée comme ça, hein, c'est plutôt que d'aller faire des courses tous ensemble, ben, y en a un qui va faire les courses, puis l'autre qui peut prendre un temps de méditation. Bon, mon épouse m'a dit qu'elle allait noter ce point-là. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller. Hein. Elle ne m'a pas dit. Ensuite, laisser de côté, ça c'est spécialement pour moi, le sacro-saint iPhone. D'ailleurs là, je l'ai laissé sur ma chaise, un symbole comme ça. Je l'ai retiré de ma poche. Il y a 36 000 bonnes excuses de le garder avec pour un temps de méditation. Parce qu'effectivement, il y a tout sur l'iPhone. Il y a même la Bible, il y a les commentaires bibliques, il y a même la Ligue qui fait des excellents commentaires bibliques dessus. Donc, il y a vraiment plein de choses où on peut se dire, mais moi, j'ai besoin de mon iPhone pour méditer. Oui, or c'est tout à fait vrai. Le seul truc, c'est que je pense qu'il y a 99 chances sur 100 que vous n'allez pas que regarder la méditation du jour sur votre iPhone, mais vous allez faire un petit tour sur RTS Info, un petit tour sur WhatsApp, et puis après vous allez répondre à quelle est-elle. Et puis finalement, votre but de retrait, il va petit à petit s'estomper et ne plus être très très présent à votre esprit, on va dire ça comme ça. Laissez de côté tous ces outils qui finalement, c'est impressionnant à quel point ils ont envahi notre vie. On s'en rend compte au quotidien, on s'en rend compte dans nos travaux, on s'en rend compte au niveau professionnel. Là, pendant les vacances, on a quand même une chance assez unique, c'est que vos collaborateurs ou les personnes qui travaillent avec vous, normalement, ils ne devraient pas vous déranger. Normalement, il y a une permanence autre qui est faite, et puis si vraiment il y a une urgence, si vous répondez une heure après votre temps de méditation, ça devrait aussi aller, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Alors laissez-le simplement de côté, sous silence, et puis de se dire, je prends un temps avec une Bible en papier, ça existe encore toujours, peut-être un carnet, peut-être un stylo, peut-être un objet qui vous permet d'entrer en méditation, que ce soit une croix, que ce soit un élément qui favorise finalement ce temps de recueillement et ce temps de connexion avec Dieu. Une autre idée, mais nettement plus exigeante, c'est de mettre son réveil, même en vacances, une demi-heure plus tôt. C'est intéressant de voir que Jésus se retire au matin, il fait presque encore sombre, puis ce matin j'étais tout seul sur ma terrasse, ça m'est arrivé pendant 20 minutes, j'étais très reconnaissant. Puis c'est vrai que c'est une des choses qui est magnifique le dimanche matin, je ne sais pas si vous avez déjà senti le calme qu'il y a le dimanche matin. C'est extraordinaire. Moi, depuis que je suis pasteur, j'ai la chance de pouvoir me lever le dimanche matin plus tôt que les autres, et je sens ce calme qui me permet de méditer et d'entrer déjà dans ce temps particulier du dimanche. Juste parce que je décale finalement mon réveil d'un petit moment, une demi-heure, trois quarts d'heure, plutôt que le reste de la population, et je profite de ce calme. C'est quand même propice pour rencontrer Dieu, il n'y a rien à dire. Alors même en vacances, déjà qu'on fait souvent la grasse mat, pourquoi pas se lever une demi-heure plus tôt, pas pour aller courir, pour profiter du soleil, de profiter du frais, pardon, mais pour aussi se mettre un temps à part avec Dieu. On peut très bien faire les deux, puis se lever une heure plus tôt. Hein. Ça, c'est... Et je vous encourage aussi pendant ces vacances, dans ces temps de méditation, à éventuellement vous fixer un objectif. De se dire, ben voilà, moi je vais essayer tous les jours de tenir avec ce temps à part de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Mettez-vous des objectifs qui vous paraissent réalistes, mais d'essayer de le tenir. Ça peut être intéressant si vous avez un petit peu l'esprit de compétition, comme moi, on se dit, ah ben là, je vais essayer d'y arriver, puis d'atteindre mes objectifs petit à petit. Ou alors, si vous voulez un autre objectif, je ne sais pas, vous faites le tour d'un thème, par exemple le repos dans la Bible, et puis vous regardez un peu comment ça peut se construire, comment est-ce que différents textes peuvent être là. Ou bien vous prenez un livre biblique, un évangile, une épître, un livre de l'Ancien Testament, puis vous l'approfondissez, puis vous dites, pendant ces vacances, j'essaye de terminer la méditation de ce livre, que ce soit le livre de l'Exode, que ce soit le livre de la Genèse, le livre de l'Apocalypse, qui sait. Prenez un objectif de ce type-là, puis vous dites, là, je m'y tiens et j'y vais. Ou bien prenez un livre de méditation, puis vous dites, ben là, à la fin des vacances, j'aimerais arriver à la fin de ce livre, et puis j'aurai grandi de cette connaissance-là de la part de Dieu. Se fixer un objectif, pour Jésus, c'était pouvoir ensuite proclamer la bonne nouvelle du royaume. Donc ça peut être pour nous l'envie de progresser sur un aspect de son caractère, un aspect de sa vie de foi, un aspect de sa connaissance de Dieu. Et puis, pourquoi pas, avec votre stylo, votre carnet, rendre compte de cette progression, rendre compte de ce que vous avez noté dans l'évolution de votre compréhension de Dieu, dans l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ensuite pouvoir y faire référence lorsque la vie trépidante reprendra son cours. Maintenant, pour prier, je vais juste aussi aborder quelques petites idées que je vous lâche comme ça, sur comment, parce qu'on pourrait faire très très long sur le comment prier, mais je vais me concentrer sur des éléments essentiels. C'est d'ailleurs, c'est premièrement un pilier de la vie de foi. La prière, c'est un pilier de la vie de foi, c'est une respiration de la vie de foi, tout simplement parce que prier, si je devais donner une définition, c'est s'ouvrir à la présence de Dieu. C'est ça qu'on fait premièrement quand on prie. C'est pas d'abord demander, c'est pas d'abord intercéder, c'est simplement s'ouvrir à cette présence de Dieu et nous en être conscients. Dieu, il est toujours là. Il est toujours là présent, mais nous, on ne peut pas être tout le temps présent à lui. En priant, on se rend présent à lui. On ouvre notre cœur, nos oreilles, notre âme, à ce que lui peut nous apporter par sa présence. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces temps de retrait, de ces temps à part, pour pouvoir faire silence dans nos cœurs et accueillir sa présence qui est toujours là. Prier, c'est simplement s'ouvrir à Dieu. Et quand Jésus se retire pour prier, il se retire précisément pour s'ouvrir à une relation, à une ouverture avec son Père. C'est rien d'autre que cela. Il s'ouvre pour être en communion avec lui. Ça a l'air tout simple, mais c'est extrêmement compliqué. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, généralement les 2-3 premières minutes de silence, elles sont plutôt complexes parce qu'on pense à ce qu'il faut faire, on pense à ce qu'il faudrait aller. Là, tout à coup, on se connecte. Puis 30 secondes plus loin, on a déjà pensé au programme de l'après-midi, au téléphone qu'on devrait faire, à différentes choses qui nous occupent l'esprit. Alors, ça fait depuis 2000 ans que les chrétiens sont confrontés à ça. Donc, on est absolument normaux à ce niveau-là. C'est tout à fait bon, aucun souci à ce niveau-là. On est dans la norme. Par contre, beaucoup ont écrit là-dessus de se dire, mais comment est-ce qu'on peut essayer de faire le calme dans notre cœur pour laisser vraiment Dieu pénétrer en moi, sa présence pénétrer en moi. Donc ça peut aussi être un petit objectif de vacances, de se dire, ben, quelle est mon expérience par rapport à ces temps de silence que je prends et quels sont finalement mes axes de progression par rapport à cela. Parce qu'il y a plusieurs ennemis ou difficultés, donc là j'en ai déjà mentionné un, le principal je pense, la distraction. Un autre, ça peut être le manque de confiance. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on s'ouvre à Dieu en le priant, on s'ouvre à sa présence. Mais ce qui me frappe, c'est de me rendre compte que est-ce qu'on a vraiment la confiance qu'il est à l'autre bout et qu'il nous écoute? Est-ce que celui à qui je m'adresse, c'est le Dieu vivant de toute éternité? Ou est-ce que je fais ça par un peu mécanisme, et puis parce que le pasteur a dit que c'était bien de le faire avant le temps de vacances? Est-ce que je m'adresse à lui en toute conscience et surtout en toute confiance qu'il est là à m'écouter. C'est pas rien. Et je pense que c'est une condition assez essentielle à la prière d'être convaincu que celui qui nous écoute, il nous écoute vraiment. Que celui qui nous écoute, qui dit qu'il est présent, il est vraiment présent et c'est pas de la théorie. C'est une expérience que petit à petit, on peut faire descendre en nous et approfondir notre vie de prière en sachant que Dieu nous écoute, en sachant qu'il est vraiment là à notre écoute. Et puis un autre ennemi, c'est peut-être de trop se baser sur les sentiments. Je sens rien, donc il n'y a rien. Je sens rien, j'expérimente rien, donc ça ne vaut pas la peine de continuer. Des fois, on va sentir quelque chose de très fort dans notre vie de prière. Des fois, on aura des temps magnifiques, on va s'en souvenir, on va se dire « Ah, là, il y avait vraiment quelque chose ». Parfois, il ne va rien se passer. Ça ne change rien à la présence de Dieu et à sa présence dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous, on ne ressent rien que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas parce que nous, on ne ressent rien que tout à coup, il ne nous écoute plus. Il y a besoin qu'on ait ces sentiments-là, mais ils ne sont pas essentiels. On peut tout à fait continuer de prier en confiance, même si on ne ressent pas grand-chose, voire même certaines fois, rien du tout. Alors, c'est des petits trucs, hein, comme ça, j'ai voulu être le plus concret possible, de se dire, ben, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, qu'on peut prendre avec nous. Je vous laisse cette liste-là, de se dire quels sont les petits éléments tout concrets, pratiques, qu'on pourra mettre en œuvre durant ce temps de vacances, ce temps à part, aller dans les lieux déserts, s'offrir des temps l'un à l'autre, laisser de côté nos objets technologiques, prendre des éléments qui peuvent nous aider à méditer, à nous concentrer sur notre objectif, peut-être se réveiller un peu plus tôt et se fixer un objectif. Et ainsi, je pense qu'on pourra expérimenter tout à nouveau. Et je vais terminer là-dessus, ces paroles que l'on retrouve un tout petit peu plus loin dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, où il nous a dit à propos des disciples qu'ils étaient rassemblés auprès de Jésus et ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il faut savoir qu'ils reviennent de leur envoi en mission et qu'ils retrouvent Jésus et qu'ils retrouvent les pieds du Maître. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et c'est intéressant de voir, là, il y a un écho. On a commencé par l'exemple de Jésus qui vit une activité intense, qui vit une activité soutenue et qui a besoin de se retirer. Les disciples sont envoyés en mission, ils vivent le même type d'activité, ils vivent une activité intense, soutenue, et le maître doit, en bon pédagogue, les inviter à se retirer dans un lieu de désert, dans un lieu désert pour se reposer avec lui, pour se reposer à ses pieds. Et je trouve ça beau pour nous de se dire, il y a oui l'exemple de Jésus, et oui, il y a l'expérience des disciples que nous sommes. Et elle est identique. On a besoin, l'un comme l'autre, de ces temps à part, de ces temps de retrait. Et je termine sur cette citation d'une dame qui s'appelle Adrienne von Speer, qui était une mystique, quelqu'un qui a beaucoup médité, qui s'est beaucoup ouvert à la contemplation, qui était d'origine suisse, de la Chaux-de-Fonds. Et puis voilà ce qu'elle nous laisse. Nous avons toujours à nouveau besoin de temps de contemplation pure. Nous avons besoin non par égoïsme, ressourcement personnel, pas même par bon sens, c'est-à-dire par une chose qu'on devrait faire parce qu'on nous dit que c'est bien en tant que chrétien. Nous avons simplement besoin de ces temps-là pour suivre le Seigneur. Alors je nous laisse avec ces paroles, je nous laisse en tant que disciples du Christ avec cette invitation à prendre ces temps de repos véritable, de les goûter et de prendre la décision de les avoir, tout simplement parce que je crois, et c'est ma conviction profonde, que nous en avons besoin pour suivre le Seigneur. Alors bon temps de méditation, bon temps de retrait, bon temps de repos à chacune, chacun d'entre vous, et que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous allez vivre avec lui. Amen.